Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission spéciale de Brochu en direct. Cette fois-ci, nous allons parler de religion, de liberté de religion. Comme catholique québécois, je connais très mal la religion orthodoxe et à travers le conflit en Ukraine, j'ai appris qu'il y avait de différents courants dans la religion orthodoxe et à travers le télégramme d'Erwan Castel, j'ai été témoin là, d'actualités, de nouvelles depuis le début du conflit en Ukraine et on me dit même avant qu'il y a une rivalité ou en tout cas une opposition entre la religion ukrainienne orthodoxe et la religion orthodoxe russe. Donc déjà, là, il y a une différence entre les deux que je comprends très mal. Et j'ai un monsieur ici qui collabore avec nous, Dimitri de Koshko, qui est venu à quelques reprises à l'émission. On sait que monsieur de Koshko est de culture russe, est un journaliste d'expérience qui est très impliqué aujourd'hui pour nous informer concernant le conflit ukrainien. Et je voulais le faire venir aujourd'hui, grâce au capitaine Place, le faire venir pour nous expliquer un peu l'historique de cette religion-là, voir les courants, surtout en Ukraine et dans le conflit qui nous concerne. Alors, sans plus tarder, je fais venir avec moi M. de Koshko. M. de Koshko, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Écoutez, vous excuserez toutes mes méconnaissances de la religion orthodoxe, mais moi, j'aimerais comprendre ça parce que on a vu toutes sortes d'images de prêtres orthodoxes russes en territoire ukrainien se faire sortir de leur église. La liberté de religion semble porter problème là-bas. J'aimerais avoir votre explication de ça.
Je peux vous juste remettre un peu en place vraiment une question de vocabulaire très importante.
Ah oui.
Ce ne sont pas des prêtres russes en territoire ukrainien. Ce sont des prêtres ukrainiens, orthodoxes, canoniques. Et de même, il n'y a pas de différence entre les religions orthodoxes ukrainiennes et russes. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence de théologique, si vous voulez, ou de raison de doctrine qui est une quelconque différence. La querelle qui existe est une querelle purement politique qui a été imposée aux orthodoxes d'Ukraine pour des raisons politiques par le pouvoir politique de Kiev et malheureusement des anglo-saxons qui avaient derrière la tête évidemment un affaiblissement du lien religieux séculaire et encore une fois canonique au niveau religieux entre la Russie et l'Ukraine. Mais il n'y a pas de différence. On ne peut pas parler d'une église russe en Ukraine ou d'une église ukrainienne en Ukraine. Les deux églises sont c'est des églises orthodoxes, alors qui se sont effectivement divisées. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont effectivement des brutalités, des voies de fait, quelquefois même des assassinats de prêtres de orthodoxes, de l'église qu'on appelle canonique ukrainienne, qui avait une grande autonomie et qui a une grande autonomie, mais qui, du point de vue canonique, dépend du patriarche qui est à Moscou. Et ce, depuis 1686, alors c'est vous dire.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire dépendre du patriarche de Moscou au point de vue canonique? C'est que quand on dit la messe, et notamment la liturgie, il est indispensable dans les différentes églises orthodoxes qui sont beaucoup plus décentralisées que l'église catholique,
OK.
centralisée au Vatican. Hein.
OK.
Il y a un certain nombre de patriarcats, dont d'ailleurs le patriarcat de Rome, qui est le pape de Rome. Mais pour les orthodoxes, c'est un des patriarches.
OK.
Pendant la messe, on se réfère au patriarche dont on dépend canoniquement. Ça ne veut pas dire que le patriarche va vous donner des ordres pour comment gérer votre boutique. Ça veut dire simplement que pour la nomination des évêques et leur accession, si vous voulez, à la succession des apôtres, ce qui est le rôle de l'évêque partout, hein, chez tous les chrétiens,
Oui.
eh bien, il y a besoin d'une consécration patriarcale. C'est en gros, ça s'arrête là. Mais ce lien canonique historique entre l'Église orthodoxe de Russie et celle d'Ukraine a été insupportable aux nationalistes ukrainiens et aux ultranationalistes ukrainiens et évidemment à tous les gens qui étaient sous influence anglo-saxonne pour faire de l'Ukraine un avant-poste anti-russe. Parce que ce lien religieux entre Ukraine et Russie constituait une unité profonde, culturelle, émotionnelle, de code culturel et religieux commun, qui, du point de vue des anglo-saxons, et de ceux qui étaient dans la mouvance de l'anti-russe, était insupportable. C'était d'autant plus facilement exploitable, utilisable, que on peut dire le grand schisme, si vous voulez, de 1054 entre autre orthodoxie et catholicisme s'est en fait avéré non pas en raison des différences théologiques qui de nos jours semblent bien au niveau
Secondaire.
d'un mal pour les lépidoptères, quoi, comme on dirait, c'est-à-dire l'aspect du filioque. Vous savez que la différence entre les orthodoxes et les catholiques, c'est que le Saint-Esprit procède du Père pour les orthodoxes et les catholiques jusqu'en 1054, justement, et qu'il procède pour les catholiques du Père et du Fils, le fameux filioque que vous avez dans le credo quand vous le récitez en latin. À noter que les premières plaques du credo, en même à Saint-Pierre de Rome, ne comportait pas de filioque. On ne va pas rentrer dans ces querelles byzantines, puisque c'est évident que ce n'est pas là qu'est le principal de la querelle. Le principal de la querelle vient du fait que quand Rome a été détruite, c'est les années 400, Byzance était Rome, continuait l'Empire romain. C'était l'Empire d'Orient. Et eux, ils ont survécu 1000 ans de plus, jusqu'en 1400, avec, je n'aime pas les détails, hein, avec avant la prise par les Ottomans de Constantinople, Byzance. 1000 ans,
1453, je crois, ouais.
Qui était, oui,
c'est ça. 1453.
Insupportable pour ceux qui veulent reprendre la tradition de l'Empire romain en Occident, notamment Charlemagne et le Saint-Empire romain germanique. Donc là, les antagonismes entre Byzance, la religion orthodoxe, l'interprétation orthodoxe, si vous voulez, dans la tradition, à la limite de Saint-Paul par rapport à celle de Saint-Pierre, on peut regarder les choses aussi comme ça si on veut, eh bien, a été aiguisé. Donc, c'est sur cette hostilité-là qu'a pu se fonder une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la russophobie, qui a été utilisée plusieurs fois dans l'histoire
occidentale. Charlemagne.
Il s'attaquait à la Russie. Et puis, évidemment, aujourd'hui, par les anglo-saxons qui s'en prennent à cette unité orthodoxe qui existait entre, ou qui existe entre l'Ukraine et la Russie, et qui leur est insupportable, puisqu'ils veulent arriver à tirer l'Ukraine vers eux et à la faire totalement dépendante et être seulement une tête de pont militaire contre la Russie. Qu'ils sont en train d'en faire en sacrifiant quand même une grande partie de la population ukrainienne.
Monsieur de Koshko.
Et donc, oui. Donc, l'Église orthodoxe était implantée aussi bien en Ukraine qu'en Russie à la suite de Byzance, puisque ce qu'on appelle le baptême de la Russie a été fait par le prince Vladimir en 980 et il a été fait à Kiev, qui était l'ancienne Russie, qui est le berceau de la Russie. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas non plus les raisons, à la limite, de l'opération militaire spéciale d'aujourd'hui. Quand les Tatars ont détruit Kiev, là on parle de 1240, c'est-à-dire avant la chute de Byzance.
1240, oui.
Et quand...
Le patriarche de Moscou, de Kiev, oui.
Quand Kiev a repris ou a reçu, y compris par un mariage princier, hein, la tradition byzantine et a choisi la tradition byzantine aux dépens de la tradition romaine et aux dépens de la religion musulmane ou hébraïque, qui était aussi proposé au prince Vladimir. Hein.
Ok.
Eh bien, quand en 1420, donc, ou 14, tu avais dit, bon, enfin,
12,
quand
1240, ouais.
Par les Tatars, par le petit-fils de Gengis Khan, eh bien, et l'autorité religieuse qui avait été transférée de Byzance à Kiev a été transféré d'abord
à Moscou,
enfin à Vladimir, oui, puis ensuite à Moscou. Bref, c'est arrivé à Moscou. D'où le fait, quand il y a eu la chute de Byzance, que Moscou se soit proclamé troisième Rome.
Okay.
C'est pas par narcissisme ou par ambition, c'est parce qu'il considérait qu'il gardait la tradition romaine après Byzance, puisqu'ils en étaient dépositaires en quelque sorte.
Ah oui,
ce
ah
qui n'a
oui.
jamais été
Tout à
admis,
fait.
évidemment, par les Occidentaux, évidemment.
Non, non, ça a toujours été Rome.
Mais
Moi,
en fait,
j'ai... Ouais.
c'est ça donc qui est fondamental.
Okay.
Le patriarcat de Moscou est constitué à partir de ce moment-là. Bon, là, on ne va pas passer sur les. Il y a ce qu'on appelle un tomos, mais c'est un mot qu'on va retrouver récemment en Ukraine. Bref, l'Église, la Byzance, transmet un patriarcat qui est à Moscou. Et Kiev est rattaché au patriarcat de Moscou en 1686.
Ouais.
Quand Kiev s'est un peu relevé, quand déjà Kiev, à Kiev, pas vraiment Kiev d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas encore dans l'Ukraine totalement historique, qui a demandé la protection du tsar russe en 1654, quelques années avant le 1686, si vous voulez, par Bogdan Khmelnytsky. Pourquoi je vous cite cette date? C'est que 300 ans plus tard, Khrouchtchev se réfère à cette date-là pour rattacher administrativement la Crimée, mais pas Sébastopol, à l'Ukraine, la République soviétique d'Ukraine. D'accord? Donc, vous voyez, c'est
Oui.
des dates qui ont des importances tout de même.
Tout à fait.
Donc, l'orthodoxie, elle est sous le patriarcat de Moscou, dans tout le territoire, en fait, de l'Empire russe, dont fait partie, évidemment, l'Ukraine, qui se voit agrandir par rapport à l'époque de Bogdan Khmelnytsky, par justement l'apport de Kiev, de Poltava, d'un tas
Alors,
de
ça,
territoires qui ont
c'est
été
important,
offerts.
si tu veux bien.
Hein?
C'est important quand même de préciser cette histoire, parce que Bogdan Khmelnytsky, nos auditeurs ne le connaissent pas, c'est un ataman de Cosaques,
C'est un
et
Cosaque.
c'est un ataman de Cosaques, et il y a eu la bataille de Poltava, qui était une bataille essentielle, dans laquelle Mazepa, qui était lui-même Cosaque, a trahi,
C'est après.
et où... Oui, et où donc c'est après, oui, tout à fait, mais il y a eu où s'est mise en place précisément le lien puissant entre les Cosaques qui avaient fui le servage polono-lituanien et se sont mis sous la protection, c'est quand même très important de le rappeler, se sont mis sous la protection des tsars de Russie. Or, c'est le Donbass, c'est ces gens-là, hein. Je pense que tu ne me
Non, non,
contrediras pas.
non, non. Le Donbass, c'est après, c'est la Novorossiya. Ça a été
Oui,
donné à l'Ukraine par les bolcheviks bien plus
mais
tard.
du point de vue du peuplement. Non, mais du point de vue du peuplement. Du point de vue du
Oui, les
peuplement.
Cosaques. Bon, il y a les Cosaques du Don,
Les
les Cosaques
Cosaques
de la Pologne.
Zaporogés.
Oui,
Voilà.
bon, admettons. On va pas
Ah bah
rentrer
oui.
là-dedans parce qu'il y aura, on n'en finit pas. Il
Bon,
faut
oui,
qu'on
on
avance sur
continue. C'est Catherine
l'Ukraine.
II, c'est
Il faut.
1774, le traité de
Alors bon,
Khrouchtchev-Karadji.
en tout cas, pour ce qui est des églises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, l'Église, donc l'Église canonique traditionnelle, celle dont je parlais là,
Oui.
qui a un lien, encore une fois, canonique avec le patriarcat de Moscou, est aujourd'hui attaquée. Ses prêtres sont quelquefois assassinés, battus, emprisonnés. Le métropolite qui dirige l'un des lieux saints de toute l'orthodoxie, la laure des grottes de Kiev, a un collier électronique à la cheville, comme
Ah oui.
le pire bandit, rien que parce qu'il est métropolite d'une église qui ne veut pas admettre qu'il lui faille s'incliner devant M. Zelensky ou devant M. Johnson ou le Premier ministre britannique actuel, quoi.
Patriarche de Constantinople.
Donc,
Oui, et le patriarche de Constantinople
encore
aussi,
moins.
Bartholomée.
Donc, comment ils ont joué leur coup? À partir du moment où Yushchenko a été élu au troisième tour créée par les anglo-saxons dans une révolution de couleurs qu'on appelait révolution orange, et qui est donc un dirigeant nationaliste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, totalement acquis aux anglo-saxons, eh bien, M. Yushchenko a, un, célébré le fameux Stepan Bandera, collaborateur des nazis pendant la guerre, qui est devenu un héros de l'Ukraine, il en a fait un héros de l'Ukraine, au point d'appeler l'avenue qui, à Kiev, mène vers l'endroit où ont été massacrés quand même des milliers de juifs, d'ukrainiens et de russes d'ailleurs, mais beaucoup de juifs, à Babi Yar. L'avenue qui mène à Babi Yar s'appelle maintenant Stepan Bandera. Faut oser. Hein.
C'est Loutchenko, là, c'est lui dans le film de Anne-Laure Bonnel là, qu'elle met au début de son documentaire.
Non, où il non, dit non, que... non, non, c'est tu confonds avec... Non.
Elle
c'est Poroshenko, tu confonds Poroshenko. Yushchenko, c'est la révolution orange.
Oui, c'est ça, qui a été... oui, en 2005, excusez, de 2005 à 2010.
2004-2005, où Yanukovych avait gagné les élections et où les anglo-saxons, et ça j'en ai eu la confirmation, ça m'a été dit, par l'amiral Jean Dufour, qui était à Kiev à ce moment-là, et devant qui les Anglais ne se cachaient pas, puisqu'ils le considéraient comme membre de l'OTAN, donc ils ne cherchaient même pas à se dissimuler, c'est les Anglais qui sont à la manœuvre, c'est les Anglais qui ont organisé la révolution orange pour déstabiliser Yanukovych et mettre Yushchenko en place. Et je précise pour les gens qui ne le savent pas que Yushchenko a été victime d'un traitement soi-disant pour améliorer son physique au Botox qui lui a été conseillé par les Anglais et c'est ce qui a défiguré son visage. On a fait ensuite passer ça pour un empoisonnement de la part du Kremlin et ça en a fait une victime. Et c'est comme ça qu'il a remporté les élections de 2005. Il a été rejoué grâce à ce subterfuge. Je ferme la parenthèse.
Alors voilà, donc c'est Yushchenko aussi qui commence à parler du fait qu'il faut qu'il y ait une église ukrainienne autocéphale, c'est-à-dire qui se commande elle-même et qui ne dépend plus du patriarcat de Moscou où il y a les Russes. Et on est contre les Russes. Alors qu'une bonne partie de la population ukrainienne et russe, ne serait-ce que justement ces territoires du Donbass, de ce qu'on appelle la Novorossiya, qui a été rattachée à l'Ukraine par les bolcheviks pour des raisons essentiellement politiques, c'est-à-dire pour prolétariser l'Ukraine, qui était beaucoup trop paysanne à leur goût. Mm-hmm. Donc voilà, à cause de ça, Yushchenko fait déjà dans le rejet d'une partie de sa population, qui était déjà le leitmotiv, en quelque sorte, d'une bonne partie des hyper-nationalistes ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine, qui, au lieu, dès l'indépendance de 90-91, au lieu de gagner les cœurs et les esprits de toute la population de l'Ukraine, qui avait toutes les chances d'être un pays magnifique, et c'est un pays magnifique, l'Ukraine. Eh bien, ils sont arrivés à exclure la moitié de leur population en les considérant comme des Untermensch, selon la bonne tradition du nazisme. C'est absurde. C'est tout fichu en l'air. Et là, Yushchenko continue. Donc, il proclame Bandera comme un héros et il estime qu'il faut créer une église ukrainienne nationale. Il rencontre pour ça les ambitions d'un monsieur qui, en matière religieuse, était ce qu'on appelle métropolite, cardinal, si vous voulez. Ils ont les chapeaux blancs, là. Eh bien, il a ce monsieur,
Bartholomé,
qui s'appelait Denisenko, Filarete de son nom de moine, qui est déjà assez âgé, et qui voulait être patriarche en Russie, qui pour ça était en fait un officier du KGB, comme ça avait été une tradition, hein, souvent mais les patriarches sous l'époque soviétique étaient des officiers du KGB.
Ah oui, hein.
Et cette tradition a été rompue par Gorbatchev, qui a laissé élire un patriarche non kagébiste qui était Alexis. Bref, Denisenko n'est pas arrivé à être patriarche en Russie, puisque après Alexis, ça a été Kirill. Et du coup, il s'est proclamé patriarche en Ukraine, dont il était métropolite quand même, hein, c'est-à-dire par rapport à l'église de Moscou, il était métropolite de l'église d'Ukraine, qui s'appelle Église orthodoxe d'Ukraine, qui est totalement autonome, qui a ses décisions, ses finances, tout ça, mais qui canoniquement, encore une fois, fait sa prière en invoquant notamment, en demandant la protection de Dieu pour le patriarche, les métropolites, les évêques, tout ça dans l'ordre, vous voyez,
oui.
Et évidemment les fidèles. Donc, le patriarche là, eh ben, il est patriarche d'Ukraine. Personne ne reconnaît ça. Mais lui-même, il se reconnaît. Et Yushchenko le reconnaît. On lui donne une église. Une des nouvelles églises qui ont été construites dans Kiev, d'ailleurs. Et puis, il constitue une église ukrainienne. Et puis, il y en a déjà deux autres. L'église canonique, celle du patriarche de Moscou, mais qui est l'église d'Ukraine. Et puis une troisième qui, elle, datait encore de 1917 quand il y a eu un premier gouvernement nationaliste ukrainien de M. Petlura. Ça, c'était pendant la guerre civile. Et là, ils avaient fait une sorte d'église qui était, elle aussi, autocéphale. Qui s'était proclamé autocéphale, et pourquoi pas, hein? Je veux dire, tout le monde a le droit de se faire une église autocéphale, après tout. Là où il y a un problème, c'est quand on oblige les gens à aller dans cette église autocéphale ou pseudo-autocéphale. C'est là qu'il y a un problème. Et c'est là le problème qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Mais bon, cette église autocéphale en 1917, au début, quand les soviétiques gagnent la guerre civile, ils la soutiennent. Et puis après, dans leur propagande anti-religieuse et leur menée anti-religieuse, eh bien, la supprime aussi, ou en tout cas, la réprime autant que les autres. Et il faut que vous ayez ça à l'esprit. Toute la période soviétique,
oui.
Les chrétiens, les orthodoxes donc, d'Ukraine, ont souffert, comme les autres chrétiens de toute l'Union soviétique, de la répression anti-religieuse.
Ah oui.
Ils ont enfin été libérés de cette répression, de ces pressions, à partir des années 85 à peu près, encore sous l'époque soviétique, et sous Gorbatchev, c'était carrément libéré. Donc, ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'était ce qu'ils ont connu à l'époque soviétique, mais en pire, aujourd'hui.
Ah oui.
Donc, on avait, du coup, cette église de Petlura, là, eh bien, elle s'est autodissoute en Ukraine et elle a continué à exister dans l'immigration, notamment au Canada.
Ah oui.
Une immigration ukrainienne assez importante.
Oui, on a 1,5 million d'Ukrainiens.
De cette époque déjà. Après, vous avez eu tous les collabos en plus. Hein. Mais oui. De cette époque, il y en a déjà.
Oui.
Et donc, ils se sont, pour arriver à avoir un patronage canonique, parce qu'il en faut un, sinon vous pouvez pas nommer des évêques et autres, eh bien, ils sont mis sous le patronage de Constantinople, où il y a le patriarche successeur du patriarche de Byzance, mais qui n'a plus rien de commun, puisqu'aujourd'hui, il est limité à un pâté de maison, à Istanbul, sous le pouvoir islamique des Turcs. Il doit être un citoyen turc, souvent un officier turc, et il a un pouvoir pour le moins limité, avec en fait des paroissiens qui sont répartis un peu partout dans le monde et qui sont en gros dépendants de l'Église grecque, si vous voulez, mais pas celle d'Athènes, où il y a un autre patriarche.
Donc, ça a l'air d'être un mouvement assez limité. Hein?
C'est limité, mais disons qu'il est dans l'immigration et donc il existait un lien canonique à Constantinople, ce qui est En France, par exemple, nous avons eu trois
Il y en a.
églises orthodoxes russes, hein, pendant toute la période soviétique, je dirais. Il y avait
La
une
guerre froide.
église orthodoxe qui continuait à être attachée à Moscou, qu'on considérait dans l'immigration comme étant liée au pouvoir soviétique, ce qu'elle était en partie. Une église de l'immigration autonome, en quelque sorte, avec un métropolite, c'est-à-dire un cardinal, et qui se rattachait canoniquement à Constantinople aussi. Et puis une troisième église qui était dissidente de celle de Constantinople et de Moscou, qui était politiquement plus affirmée, je dirais, pour la monarchie, la nostalgie de la monarchie, etc., et qui était une église hors frontières, avec elle aussi des métropolites qui étaient peu reconnus, je dirais, mais enfin qui a quand même donné, par exemple, un saint, Saint Jean de Shanghai et San Francisco, qui était dans cette obédience-là. Mais dans ces trois obédiences, si vous voulez, le paroissien orthodoxe, le croyant orthodoxe, qui était en France, ou en Europe d'ailleurs, eux-mêmes au Canada et aux États-Unis, pouvaient choisir. Ils choisissaient l'une de ces trois obédiences librement.
OK.
Donc rien ne l'empêchait de le faire. Et aujourd'hui en Ukraine, on pourrait dire, ben voilà, vous avez au moins trois églises, choisissez celle que vous voulez, vous allez dans celle que vous voulez. Et
Mais c'est pas ça.
c'est pas le cas. Donc je continue, mon monsieur Denisenko, il s'est proclamé patriarche, il a le soutien du Chenko. Puis quand Yanukovych est élu enfin en 10, avant d'être renversé par le coup d'État en 14, les choses se sont aplanies, ont été plus calmes. Denisenko continuait ses trucs, il était soutenu par les radios les plus nationalistes ou les courants les plus nationalistes, mais bon. Ils embêtaient personne, quoi. Et puis est arrivé le coup d'État de 14, est arrivé M. Parachenko, celui qui est dans le film effectivement de Hanlore, et lui décide de faire une église autocéphale qui va avoir un tomos, c'est-à-dire une reconnaissance, bah, par qui? Bah, par le patriarche de Byzance, puisque c'est celui qui est le numéro 2 après le pape, en quelque sorte. Donc le numéro 1 pour l'Église orthodoxe, mais le numéro 1 tout à fait formel. C'est ce que... Et donc, on arrive à obtenir de ce patriarche qui s'appelle Bartholomée, qui est un officier turc, effectivement, qui est très lié aux services américains en tout genre, dont on a dit qu'il avait quand même quelques ennuis financiers dans son pâté de maison là. Et ces ennuis financiers ont été résolus grâce au fait qu'il accepte la demande de M. Parachenko de donner un tomos,
Ouais.
c'est-à-dire de déclarer l'Église d'Ukraine autocéphale.
Wow.
Il arrive à Kiev, je coupe, je raccourcis, hein.
Oui.
Il arrive à Kiev. Et puis là, manque de peau, il nomme pas, il confirme pas M. Denisenko, là, Filarete, comme patriarche d'Ukraine. Ah, on est malade, hein, évidemment. Et il nomme un autre mec, un autre métropolite, beaucoup plus marqué, bandériste,
Ah oui.
comme métropolite d'Ukraine, de l'Église autocéphale d'Ukraine, avec une petite contradiction que ne manquera pas de soulever Denisenko, c'est que le brave Bartholomée, pas idiot, et puis de tradition commerciale grecque quand même, il ne nomme pas un patriarche à Kiev, il nomme un métropolite qui lui obéit directement à lui, qui quand il fait la quête chez les paroissiens, la petite com chez nous, là.
Ah ouais, ils marchent de même, les
Donc,
autres aussi.
Denisenko le dit, mais on s'est fait rouler. Mais le métropolite mis en place par Parachenko, Bartholomée et les services anglo-saxons accepte la chose et il reprend les églises de Denisenko, qui est trop vieux, qui n'arrive pas à résister. Et du coup, à un moment, on a quatre églises. Mais bon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a trois. Celle de Parachenko, donc, qui à un moment s'est calmée quand Zelensky a été élu, puisque lui, il s'en foutait un peu, hein. Et puis, l'église canonique, qui a la majorité, qui avait la majorité des diocèses et des paroisses, à peu près 12 000. Et déjà, depuis l'époque Yushchenko, les gens qui avaient choisi l'église nationaliste, dite autocéphale, prenaient de force les églises des autres.
Ah oui.
Parce qu'évidemment, c'était du foncier, ce n'était pas des religions très religieuses, hein. C'était du foncier, c'était des icônes et des richesses qu'on pouvait avoir dans
Très
ces
grande valeur.
églises. Et puis évidemment, c'était des paroissiens. Donc, il y a commencé à avoir des violences déjà à l'époque. Sous
Hey.
Parachenko, ça s'est intensifié. Et maintenant, avec l'opération militaire spéciale russe, eh bien, c'est tellement intensifié que c'est toutes les églises canoniques qui sont attaquées. Et ce que je vous disais, le métropolite de l'alors des grottes de Kiev, qui a été attaqué, malgré les fidèles qui essayent de défendre, qui chantent des prières,
Oui, on a vu ça.
quand les attaques des commandos de gens Azov et néo-nazis, sous prétexte religieux, mais qui viennent prendre les églises, qui quelquefois dans certaines églises ont même organisé des cérémonies totalement satanistes, parce que le bataillon Azov, par exemple, comprend un gros noyau de ce qu'ils appellent black metal et de
Oui,
références
là.
sataniques, qui eux
Oui,
s'en sont
je ne
pris.
suis fait
Alors
rien.
là, aux églises orthodoxes, évidemment, sous cette couverture-là, qui, je pense, agrée assez aux anglo-saxons, en fait. Pour
Oui, bien sûr.
compliquer un tout petit peu les choses, il y a en Ukraine, sur l'Ukraine de l'Ouest, compte tenu de
Les
l'histoire de
Uniates.
la Galicie, qui a appartenu à la Pologne, qui a appartenu à l'Autriche-Hongrie, puis à la Pologne à nouveau, toute une influence catholique qui, pour arriver à gagner les Ukrainiens, n'a pas changé le rite byzantin, mais a changé en revanche le lien canonique du patriarcat de Moscou à Rome. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on a appelés les Uniates, parce qu'ils avaient fait le traité d'union, donc déjà aussi avec les Polonais. Donc, il y a aussi une quinzaine de pourcents à peu près des chrétiens d'Ukraine qui sont des uniates, c'est-à-dire des catholiques de rite oriental, y compris avec des prêtres qui peuvent être des hommes mariés, ce qui a beaucoup fait ici une interprétation complètement erronée, où quand il y a eu les discussions sur le mariage des prêtres, il y a des prêtres qui sont devenus uniates catholiques en pensant qu'ils allaient pouvoir se marier, ce qui était faux. L'Église orthodoxe autorise des hommes mariés à être prêtres, c'est ce qu'on appelle le clergé blanc, qui se distingue du clergé noir, des moines, qui eux peuvent monter en grade jusqu'à patriarche, évêque, etc., alors que le clergé blanc ne pourra rester qu'au grade de archiprêtre, c'est-à-dire
Okay.
prêtre en chef, si vous voulez. D'accord?
Oui.
Donc, les gens qui sont devenus uniates en pensant pouvoir se marier, c'était une erreur. Il fallait qu'ils soient mariés avant. Voilà.
OK.
Donc,
C'est-à-dire qu'un
mais
homme,
ce qui est fou.
un homme marié peut devenir prêtre, un prêtre ne peut pas se marier.
Voilà, c'est ça. Et les uniates, évidemment, avaient aussi des ambitions sur certaines églises, sur certains domaines. etc., etc. Donc, il y a des bagarres aussi entre orthodoxes, alors aussi bien ukrainiens que de canoniquement au patriarcat de Moscou, qui pour défendre des églises, des paroisses, etc. Bon, à l'époque soviétique, il est vrai qu'il y a eu des paroisses uniates qui ont quelquefois été transmises à l'église orthodoxe. Ça complique un peu les choses. En un mot, aujourd'hui, les offensives, les violences
Oui.
arrivent au point que les trois grands monastères, lieux saints de l'orthodoxie en général, notamment la Laure des Grottes, est tellement attaquée par les forces ukro-nazies, otano-ukrainiennes, que là, le monastère des Grottes, la Laure des Grottes, est pillé, où il y avait depuis les années 1050, quelque chose, enfin ça date à peu près du schisme. Il y avait dedans
C'est ça,
des
des
corps de
reliques
moines, donc depuis
momifiées.
des siècles, qui ont été plus ou moins considérés comme béatifiés quelquefois. Et il y a notamment
Momifiées.
des personnages de légende, comme le fameux guerrier Ilia Muromets, qui est enterré dans cette laure, où vous pouviez visiter en passant à côté des tombeaux de ces moines. Hein. Et ils étaient momifiés en quelque sorte, vu la température ambiante. En même temps, il y a là des icônes qui datent de l'an 1000. Il y a des trésors. Eh bien, ces
Sont
trésors
pillés
sont en train
actuellement,
d'être
là.
pillés et d'être vendus à des musées occidentaux et malheureusement, y compris au Louvre.
Ah, ouais.
Soi-disant, quand ça s'est su, parce qu'évidemment, au début, c'était simplement du pillage comme ça, c'est un peu ce que les Américains ont fait en Irak, à Bagdad, avec le musée de Bagdad, avec toutes les antiquités sumériennes. Ils ont cette maladie-là. Eh bien, là, ces richesses sont vendues en Occident et sous prétexte de les mettre à l'abri des Russes.
Ah oui, d'une future attaque nucléaire. J'ai entendu ça aux nouvelles hier.
N'importe quoi. Enfin,
Que
oui,
oui, qu'on pensait de
c'était juste.
transférer.
En
Oui.
fait, c'est du pillage, du
Ah oui,
vol,
ah oui, ah oui.
dont nous nous rendons complices.
Hey.
Parce que nos musées acceptent de reprendre
Oui,
parce qu'en fait, c'est des objets qui sont sacrés quand même
c'est
pour
des objets
les
sacrés,
Occidentaux.
mais qui font bien l'affaire des commissaires-priseurs. Hein,
Absolument.
Sotheby's
Et ils vont
et
vendre, y
compagnie.
compris, par exemple, Ilia Muromets, ils veulent le vendre. C'est-à-dire quand même le corps d'un personnage qui est
Ah ça, oui,
historiquement très très important. Mais en plus, il y a quand même un blasphème là-dedans, aller vendre un cadavre. Enfin bref, c'est innommable.
aller vendre
C'est
des reliques sacrées, des reliques
des
sacrées,
reliques
des
qui sont
reliques sacrées.
sacrées, oui. Donc
Voilà.
plus les icônes, plus
C'est
les
insupportable.
encensoirs et les
Monsieur de
objets du culte.
Coschko, en
C'est
Occident,
insupportable,
évidemment.
c'est insupportable. C'est
Monsieur de
là,
Coschko.
on en est là. C'est bien la marque des intervenants satanistes, hein, qui nous viennent d'outre-Atlantique et d'outre-Manche.
Merci, capitaine, effectivement, et de le spécifier. Puis, pour terminer, j'avais commencé là-dessus. Qu'en est-il de la liberté de religion en Occident, Monsieur de Coschko? C'est des choses qui se passent en temps réel en ce moment. Il faut aller dans des médias alternatifs pour voir ça. Puis même là, on en voit
On n'en
très
parle pas
peu.
du tout, hein, mais pourtant, on peut dire que les orthodoxes ukrainiens aujourd'hui subissent ce qu'ils ont subi à l'époque soviétique,
Voilà.
peut-être en pire. Alors, il y a quelques incidents qui ont remonté le moral de certains paroissiens. Il y a par exemple un oukro-nazi qui s'en est pris à un prêtre pendant une messe, un prêtre canonique, hein. A voulu l'étrangler et il est mort. Il est mort. L'attaquant est mort.
Ah oui.
Ouais. Alors on a considéré évidemment que c'était un miracle et que c'était là le signe de la protection de Dieu. Il y a eu quelques incidents comme ça. Les paroissiens font preuve d'héroïsme, faut bien le dire. Il y a des images qu'évidemment les médias occidentaux ne montrent pas. mais de gens, surtout des femmes, qui arrivent à résister à ces espèces de brutes qui les attaquent, qui sortent les prêtres en habit sacerdotal, en train
Ah, j'ai
de
vu
dire
ça
une messe.
aussi. Je l'ai vu.
Ils les sortent, ils les battent, ils les tabassent à l'extérieur de l'église pour s'emparer, évidemment, des icônes et autres, et ensuite prendre possession de cette église et quelquefois y faire des cérémonies, des danses, des tas de trucs qui n'ont rien
Oui.
à voir avec le christianisme. En plus de ça, ils n'y arrivent
Païenne,
pas, ils
païenne au
manquent de
minimum et
prêtres.
sataniste au mieux, au pire.
Ils manquent parce que comme quelquefois ils veulent quand même installer des cultes, il faut qu'ils forment des prêtres auprès de leurs troupes au croc nazi, là. Et ils en manquent parce que les prêtres, les vrais, refusent de servir dans les églises qui leur ont été arrachées de force et ils veulent pas qu'on les contraigne. Du coup, ils continuent à faire des messes, à dire des messes dans les appartements, dans des maisons.
Clandestine,
Bref,
clandestine.
on peut dire que de plus en plus, on va vers un phénomène de vieux croyants que la Russie a connu après Pierre le Grand et qui vont vers des sectes finalement. On va
Oui, et
voir
puis
comment ça va se passer,
on
ça va
va avoir,
dépendre.
on va voir se développer une église orthoxe de type catacombe,
Une église des
hein,
catacombes, comme à l'époque soviétique en fait, où
Oui,
les
voilà.
soviétiques, et c'est ça qui explique que les soviétiques avaient mis les patriarches du KGB, c'est qu'ils savaient que c'était l'église qui était l'instrument le plus efficace pour éviter une église des catacombes qui serait beaucoup plus difficile à contrôler pour un État totalitaire.
Ah oui, hein.
Donc ils le faisaient à travers
Alors,
une église orthodoxe qui était tolérée et qui était même finalement utilisée comme accessoire, et c'était du gagnant-gagnant entre l'appareil de l'église orthodoxe et l'appareil soviétique. C'est comme ça que l'église orthodoxe russe a survécu quand même.
Oui, capitaine.
Si je peux me permettre, il y a une preuve absolue de la manœuvre des anglo-saxons dans ce domaine, c'est qu'on retrouve le même phénomène au Moyen-Orient avec les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une volonté de ces gens, de ce machiavélisme, hein, j'appelais ça machiavélisme, mais je me suis aperçu que quand je parlais de machiavélisme, les gens me reprenaient et me disaient non, non, c'est pas machiavélisme, c'est pas machiavélique, c'est satanique. Et donc, des interlocuteurs tout à fait normaux, hein. Et donc, ce machiavélisme des banquiers, en fait, hein, qui veulent diriger le monde, consiste à détruire effectivement toutes les croyances qui pourraient permettre à une éthique de survivre, donc ça c'est l'objectif, et à une solidarité, notamment chrétienne, de leur résister. Et donc, ils ont le même, on voit le même processus avec les chrétiens d'Orient. Ce qui démontre que ça n'est pas un hasard, que c'est bien une politique concertée.
Capitaine, la même chose ici de ce bord-ci de l'Atlantique, pour connaître un peu l'histoire récente du Québec, une des choses que le régime canadien anglo-saxon orangiste s'est affairé, c'est d'amalgamer l'histoire anglo-saxonne avec l'histoire française d'Amérique. Et essaie de nous faire ils ont attaqué l'Institut qui est l'Église, qui est un des remparts de la culture française ici en Amérique, parce qu'après la répression de 1837-38, je rentrerai pas dans les détails, les francs-maçons s'y ont mis et plusieurs groupes qui voulaient attaquer l'Église comme institution. Pour nous déraciner de cette tradition-là. Oui.
C'est une constante, hein, du système de domination mondiale anglo-américain qui est, je le rappelle, judéo-protestant et qui donc n'a en fait rien de chrétien, parce que le protestantisme, c'est un retour à l'Ancien Testament, c'est vétérotestamentaire, hein. Donc, l'objectif était de supprimer les interdits de l'Église qui frappaient le prêt à intérêt. Donc, ça concerne les banquiers judéo-wasp, judéo-white Anglo-Saxon Protestants. Donc, ces gens-là ont un objectif, et justement, le fait que ça se produise au Canada, en Ukraine, au Moyen-Orient, mais également en Afrique, où les missions évangélistes remplissent une fonction, hein, qui est donc de supplanter partout où il est présent le catholicisme, ou par exemple les chrétiens coptes en Égypte, etc., que ce soit les maronites,
Une constante partout.
c'est une constante. En fait, destruction des fondements de l'éthique religieuse. Donc, ce qui permet ensuite l'absence totale de scrupules, notamment sur le plan bancaire, spéculatif, financier, etc.
Et capitaine, et on va terminer là-dessus, mais c'est un autre concept que j'assimile tranquillement. Et puis ici au Québec, on l'a vécu beaucoup dans tout ça habillé d'un soft power, d'un emballage de liberté. On défend nos libertés, la démocratie, l'intégrité territoriale. C'est toujours bien emballé, mais quand on fouille un peu, là, c'est donc monsieur
Clairement,
de oui.
clairement, oui, clairement. Donc, il y a une homogénéité chez les différents peuples dont on parle actuellement. Il y a une homogénéité qui relève de l'éthique, hein, et cette éthique, bien évidemment, elle est spirituelle, elle ne peut pas être matérielle. Et donc, et face à ça, il y a un projet dématérialiste, précisément, parce que ces gens-là sont dématérialistes, hein, alors machiavélique ou satanique, c'est à nos auditeurs de juger, mais qui est de destruction de tous les fondements de l'éthique, parce que ça leur permet d'avancer dans leur agenda. Voilà.
Voilà, monsieur de Cochecot,
Pour
pour
moi,
terminer.
oui, simplement, ce que je pense, c'est que, là, vous êtes plus spécialiste que moi de toutes ces questions-là, mais ce que je dirais, c'est que d'un simple point de vue général, et je dirais à la française laïque et républicain,
Ah
eh
oui.
bien, dans cette affaire ukrainienne, la moindre des choses, ça serait que nos médias, nos politiques exigent la liberté religieuse purement et simplement. C'est-à-dire qu'on n'aille pas s'enferrer dans les discussions de l'Ukraine a droit à l'autocéphalie, etc. Pourquoi pas? Faites de l'autocéphalie. Mais n'obligez personne à choisir telle ou telle église de force. Ne pillez pas les églises des autres. Ne faites pas des actes de pillage et d'attaque et de brutalité
Et
comme
de
vous faites
blasphème.
actuellement contre la Horde de Kiev.
Et de
Il y a un
blasphème.
respect pour les croyances des autres et pour les religions des autres et pour leur façon de célébrer leurs croyances et de les remplir. Enfin, en quoi est-ce que c'est contradictoire avec des principes qui ne sont même pas religieux, qui sont reconnus logiquement et qui sont soi-disant défendus, en tout cas, par la République française, par exemple?
Oui, la fameuse mystique de
Comment
la
se fait-il?
laïcité dénoncée
Là, on ne reconnaît
par
pas.
Youssef Hindi.
La moindre. C'est une affaire de liberté religieuse. L'État ukrainien n'a rien à voir là-dedans.
Alors, vous citiez des souvenirs du régime nazi que nous rappellent les événements là, avec l'Église orthodoxe dans les derniers mois. J'ai vu des images épouvantables et normalement, ça devrait pas bien se finir pour ceux qui pratiquent ce genre de
Ça va pas leur
mentalité.
porter
Hein?
bonheur, ouais. Ça va pas
Hein?
leur
Il
porter bonheur.
faut garder la foi là-dedans aussi, monsieur de Cochecot, hein?
Sans doute.
C'est parce que je parle à plusieurs en coulisses, monsieur de Cochecot, puis je regarde cette montée en tension-là là, qui ne lâche pas actuellement. Il y a toutes sortes de phénomènes cachés en ce moment dans le régime de Zelensky. Jean-Claude Pomerleau, il y a un an et demi, me parlait d'ucro-nazi. Je ne le croyais pas. Je disais, il va fort un peu. Et plus j'en découvre, plus je m'aperçois comment on est berné dans toute cette entreprise-là ukrainienne. Et On se demandait, Jean-Claude et moi, en début d'analyse, il y a un an et demi, comment sortir de ce piège infernal? Comment sortir de ce piège infernal?
Il y a eu en France une enquête très, très bonne, d'un point de vue journalistique, qui a été faite par témoin, comment ça s'appelle, Tribune juive, par Tribune juive, et sur le nazisme en Ukraine. Avec notamment, parce que je citais par exemple sur l'avenue Stepan Bandera qui va à Babi Yar, à Kiev.
Mais écoute, il faut que s'il te plaît, tu m'envoies le lien.
Ils ont recensé le nombre de statues, de rues, d'avenues, de commémorations, de défilés aux flambeaux, enfin toutes sortes de choses, justement en commémoration nazie, du régime nazi d'occupation et de néo-nazisme. C'est un article génial, un peu long. Moi, je ne me rendais même pas compte qu'il y en avait autant, hein, de choses comme ça dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Et ça a été fait par Tribune juive. Alors, l'ennui, c'est que sur le site de Tribune juive, ils l'ont enlevé.
Ah oui.
Tu l'as sauvegardé.
Mais on peut arriver à le retrouver sur plusieurs sites, et notamment sur Stop Russophobie.
Voilà.
Bon, très bien, très bien. Alors,
merci, Monsieur de Koshko. On va suivre ça de près, puis vous êtes toujours le bienvenu à Radio Infocité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.